On s'en va observer l'océan pour le protéger et nous protéger. L'océan joue un rôle fondamental dans le mécanisme du climat de la planète. En outre, c'est un lieu de vie hors du commun pour des espèces qui ne sont pas toutes connues. Il faut dire que c'est assez difficile à observer, ce milieu rempli d'eau et énorme. Les scientifiques y parviennent cependant, notamment au LOPS, laboratoire d'océanographie physique et spatiale de Plouzané, où Nicolas Kolodziejczyk est physicien et océanographe de l'Université de Bretagne occidentale.
Dans ce laboratoire, en fait, on a une forte activité en fait, d'observation de l'océan, donc de collecte de données pour les scientifiques. Et en fait, un des projets phares du laboratoire et qui est porté par le laboratoire, c'est le programme en fait, Argo France, qui contribue en fait, à un programme international plus large, qui est le programme Argo International, en fait, qui vise à déployer en fait, des flotteurs autonomes qui vont mesurer la température et la salinité en profondeur dans l'océan, sur l'océan global. Donc c'est un réseau qui existe depuis une vingtaine d'années et qui a permis donc de collecter en fait des données de telle sorte qu'on a maintenant en fait on a tous les 10 jours en fait on a une photographie en 3 dimensions en fait de la température, de la salinité de l'océan. Donc on peut faire des suivis climatiques. Ça a nourri des milliers de publications pour la recherche. Ça a été révolutionnaire en océanographie.
Oui, parce que les flotteurs en plus ils durent longtemps.
Alors les flotteurs ils ont une autonomie en général de 5 ans. Et donc, il faut renouveler le parc de flotteurs déployés à la mer. Et donc, la France contribue à environ 10% du réseau global, et donc dans ces zones d'intérêt scientifique de prédilection. Quoi.
Mais il y a des trous dans la raquette, et c'est là que les voiliers des particuliers ou des entreprises, je ne sais pas, sont intéressants.
Alors, effectivement, en fait, le programme Argo, il est conçu pour échantillonner avec une certaine résolution spatiale et temporelle. Et donc avec cet échantillonnage, on ne peut pas capturer en fait tous les processus physiques dans l'océan. Et donc du coup, on a besoin d'autres plateformes qui vont échantillonner par exemple plus fréquemment et notamment les mesures en route des bateaux, des thermosalinographes en fait. Donc au LOPS, on a une activité où on fait le suivi en fait de ces mesures sur les voiliers, sur les navires de la flotte océanographique aussi. Donc en fait, en gros, on a un parc de 6-7 capteurs en fait au LOPS. Donc en gros, ça limite le nombre de voiliers qu'on peut équiper par an.
Et ils vont dans des endroits spéciaux quand même. C'est ça qui est intéressant.
Les voiliers, justement, on les choisit pour aller particulièrement dans les régions soit polaires, soit dans l'océan austral où on a moins de données en fait que dans l'hémisphère nord de manière schématique. Ces plateformes vont nous fournir des mesures à plus haute résolution, alors certes très localisées, mais qui vont nous permettre d'observer d'autres processus et qui vont être utiles aussi pour, comme je le disais tout à l'heure, pour la calibration et la validation des mesures satellites en fait.
Ça veut dire qu'un satellite d'en haut, il peut mesurer la salinité s'il est bien calibré, c'est ça ?
C'est ça. En fait, avec les satellites, on mesure beaucoup de paramètres, dont la salinité. Donc ça, c'est assez récent. Mais le problème des satellites, c'est qu'ils ne voient que la surface. Alors c'est super, ils ont une très bonne résolution à la surface, mais ils ne voient pas la profondeur. Donc avec Argo, avec d'autres types de plateformes, en fait, on va pouvoir avoir la mesure de la surface, mais aussi la mesure en subsurface. Et ça, c'est très important parce que ce n'est pas accessible par les satellites. Et toutes ces mesures en fait, qu'on appelle in situ, donc qui sont prises dans le milieu, en fait, vont permettre de calibrer en fait, ces mesures satellites sans lesquelles en fait, on n'aurait pas des mesures de qualité au niveau spatial.
Il existe d'autres moyens d'observer l'océan, comme nous l'explique Victor Turpin, qui lui est ingénieur de recherche en océanographie et il est coordonnateur technique de l'observatoire Océanops.
C'est une structure qui dépend de l'Organisation mondiale de la météo et de la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO et qui vise à coordonner, développer le système d'observation globale de l'océan.
Et pourquoi observer l'océan ?
Observer l'océan pour connaître son impact sur le climat, pour connaître l'interaction avec l'atmosphère, parce qu'on sait que l'océan va nourrir énormément les phénomènes météo qui vont impacter aussi les habitants de la Terre, des côtes. Et puis aussi connaître la bonne santé de l'océan, puisqu'on est nombreux à dépendre de l'océan pour des tas d'activités.
Donc c'est un programme permanent en fait.
Le système d'observation globale est un programme permanent. Les réseaux qui contribuent à ce système visent à durer... longtemps, on ne peut pas tellement dire combien de temps. Donc oui, c'est vraiment quelque chose qui est sur le long terme.
Alors quels sont les types d'instruments qui permettent d'observer l'océan, que vous travaillez avec ou pas d'ailleurs ?
Alors il y a 3 grands types d'instruments. Il y a les navires qui vont faire disons la meilleure qualité d'observation puisqu'on a les meilleurs capteurs à bord, les meilleurs scientifiques, les meilleurs protocoles. On a les instruments autonomes. qui vont coûter beaucoup moins cher, qui vont pouvoir être déployés un peu partout et qui vont être mobiles.
Les célèbres flotteurs Argo, par exemple ?
Les flotteurs Argo, pour le coup, sont des instruments autonomes qui vont profiler, c'est-à-dire qui vont plonger dans l'océan et remonter et dériver au gré des courants.
Et il y a même des drones.
Et les drones sous-marins, c'est un peu le même principe, mais eux, ils sont pilotables. C'est-à-dire qu'on peut, grâce à des petites ailes, c'est un peu technique, mais on peut les piloter et les emmener d'un point A à un point B et revenir, etc. Et on a les mouillages, c'est-à-dire les points fixes, qui permettent de faire de la très bonne science, mais aussi d'avoir des séries temporelles, des suivis au même point, de la même information. Donc on peut voir plus facilement les tendances.
Alors vous, vos préférés, c'est les capteurs sur animaux marins. Alors quel genre d'animaux marins? Combien environ?
Alors initialement, les animaux marins, c'était surtout les mammifères marins. Et en fait, la technologie a progressé, la miniaturisation a progressé, la durabilité a progressé. Et donc on peut mettre ça maintenant sur des animaux beaucoup plus petits, comme des oiseaux qui vont plonger et faire des mesures dans les premiers mètres de l'océan, mais aussi sur des baleines qui vont aller très profond, sur des tortues qui vont être des espèces migratrices. Et tout ça. L'intérêt des mammifères marins, c'est surtout qu'ils vont aller mesurer au pôle, où on a énormément besoin d'observation.
Et ça dure combien de temps, un capteur sur un animal marin, en gros ?
C'est une saison. Alors moi, je connais un peu mieux les phoques, ils muent, les phoques muent, donc quand la peau se renouvelle, et ben le capteur est de temps en temps abandonné à terre et on peut le récolter, de temps en temps abandonné en mer et là, il est perdu.
C'est bien beau de collecter des observations, encore faut-il pouvoir ensuite les transformer en connaissances. Pauline Chauvet, également au LOPS pour le CNRS, aide les scientifiques de l'Institut européen de la mer à traiter les données, puisqu'elle est data scientist.
Data scientist, c'est scientifique de données, tout simplement. Alors, scientifique de données, en fait, il y a plusieurs personnes qui vont faire des choses différentes. Data scientist, ça peut être la personne qui va analyser des gros jeux de données. C'est-à-dire son seul but, ça va être d'aller récolter les jeux de données qui sont partagés ou qui va trouver sur les internets, les regrouper et après les faire passer dans des grosses moulinettes. Donc ça, c'est une partie des data scientists. Moi, quand j'étais... Alors, ils m'ont appelé conseillère scientifique pour justement s'échapper un petit peu de ça. Ça va être plutôt de la gestion des données qui sont produites par les autres, donc surtout le cycle de vie de la donnée. Aller essayer de l'organiser quand on la collecte, quand ensuite on va essayer de les regrouper ensemble, leur donner les mêmes noms, leur donner les mêmes unités, les regrouper comme ça. Comment on les préserve? Où est-ce qu'on va aller les stocker? Et ensuite, comment est-ce qu'on peut les partager pour les rendre publics au plus grand nombre? Voilà, donc c'est un peu deux façons différentes de traiter la donnée.
Alors, dans votre cas, ce sont les données des chercheurs de l'IUM ou ça va au-delà ?
Alors là, dans mon travail actuel, oui, c'est les données qui sont produites par les chercheurs. Alors en fait, par le personnel de recherche. J'agrandis parce que les chercheurs, ça va être vraiment une classe de métier. Mais on a aussi des étudiants qui produisent des données. Il y a aussi tout le personnel technicien et ingénieur qui produisent énormément de données. Comme c'est eux qui sont aux machines, par exemple, eh bien, c'est eux qui vont produire de la donnée.
Et même des citoyens lambda ?
Ouais, et alors là, c'est intéressant, ça va être au travers de projets, donc les projets de sciences participatives. Et là, ça va vraiment être les citoyens qui vont devenir les préleveurs, entre guillemets, des données. Et donc, ça va nous revenir et nous, après, on va essayer justement de bien les gérer.
Vous êtes aussi biologiste marine, c'est important, je suppose ?
Ouais, moi, en fait, c'est comme ça que je suis arrivée aux données, donc dans la biologie marine. Moi, j'étudiais les écosystèmes, et donc, en fait, quand on parle de système, on fait des liens entre plusieurs. Donc, on va chercher de la physique, on va chercher de la biologie, on va chercher de la chimie, etc. Et c'est par ce biais-là que je me suis rendu compte que toutes les données pouvaient être liées entre elles, que c'est pas parce qu'on avait récolté une donnée pour répondre à une question que les autres personnes vont les récupérer pour le même objectif. Et donc, en étant biologiste, j'ai découvert qu'on pouvait faire plein de choses différentes avec la donnée, que c'était très important de bien la partager.
C'est un métier qui est tout nouveau, si on veut, et j'imagine qu'il est encore en train d'évoluer, notamment peut-être avec l'intelligence artificielle. Enfin, comment ça se passe ?
Ouais, alors, conseiller scientifique, en tout cas, ça c'est sûr que c'est assez récent, notamment avec, maintenant tout est numérique. On produit de plus en plus de données. Les intelligences artificielles, tout ça est discutable, mais on leur promet un avenir merveilleux parce qu'elles vont manger toutes les données de façon plus ou moins gourmande et il y a tout un débat là-dessus. Mais oui, c'est un métier émergent et puis surtout qui évolue extrêmement vite. Si on regarde parmi mes collègues, dans les conférences, les workshops, etc., pour se mettre à jour, c'est littéralement toutes les semaines que j'ai un nouveau dossier à apprendre finalement.
Des interviews qui ont été réalisées pendant la semaine Mer et Éducation proposée par l'Institut européen de la mer, l'IEM, à Plouzané, aux enseignantes et aux enseignants de collège et de lycée. C'est comme ça chaque été.